Bonjour, bienvenue sur La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur, actrice de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach et praticienne narrative. Je vous livre ici, un mardi sur deux, un conte qui m'a inspirée. Quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans l'épisode 8 de La vie est un conte, intitulé Le chef d'orchestre. Je souhaitais commencer cet épisode en remerciant Olivia L, qui me laisse le message suivant. Bravo pour cette très belle initiative de partage. Je trouve le concept très intéressant et très bien équilibré entre le volet ludique du conte en lui-même et les parties relatives à la vie quotidienne et à la vie pro. Merci Olivia pour ce retour. Le conte que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle « Le chef d'orchestre ». Il est issu de l'ouvrage « Formé par les contes » de Philippe Coste et Martine Bijard. Il était une fois, deux fois, maintes fois, un grand chef d'orchestre de l'Opéra de Vienne. Il s'appelait Abel Einreich. Ce jour-là, Abel attendait Erika dans son vaste bureau, au premier étage du vénérable et majestueux bâtiment. Ses fenêtres donnaient sur la Karlsplatz, où régnait une atmosphère si particulière de veille de fête. Beaucoup de promeneurs avaient bravé la neige. Les gens allaient et venaient, pressés, les bras chargés de paquets, en famille, en couple ou seuls. Certains s'arrêtaient devant le kiosque à musique, d'où s'échappaient des notes joyeuses. D'autres, plus paisibles, profitaient de la douce chaleur des nombreux cafés pour parler de l'année nouvelle ou évoquer celle qui s'achevait. Abel vit la silhouette d'Erika sortir du métro et traverser l'esplanade, courbée, emmitouflée jusqu'aux sourcils, pressant le pas sous les flocons. Elle frapperait à sa porte dans quelques minutes. Il quitta la fenêtre, se plaça derrière son bureau d'acajou et ouvrit un tiroir. Il en sortit une baguette de bois sombre qu'il posa sur le bureau. Puis, il ouvrit un autre tiroir, en sortit une deuxième baguette identique, quoique très patinée, plus usée. Il la posa à gauche de la première, puis il s'assit et attendit. Erika et Ratolieb désiraient ardemment devenir chef d'orchestre de l'Opéra de Vienne. Elles possédaient les compétences, le talent et le caractère pour réussir. Quand elle sortit du métro, elle jeta un bref coup d'œil à la fenêtre du premier étage de l'Opéra. Cette entrevue avec Abel Einreich serait déterminante. Elle traversa la Karlsplatz énergiquement pour combattre le froid et entra dans le bâtiment. On toqua. Abel se leva, ouvrit la porte et pria Erika de bien vouloir entrer. Il était souriant et grave. Elle était tendue et décidée. Il la fit asseoir, contourna son bureau et posément s'assit en face d'elle. Ils s'entretinrent pendant plus d'une heure, évoquant presque tous les aspects de la fonction, revisitant le parcours d'Erika, insistant sur les points essentiels. Erika fut brillante, Abel très amène. Enfin, tandis que un à un les lampadaires de la Karlsplatz s'allumaient, Abel dit à Erika « Mademoiselle, vous possédez, c'est incontestable, presque tout pour être chef d'orchestre. Mais avant de vous donner mon accord, je vais vous poser une question simple. » « En avez-vous l'autorité ?» Erika se raidit. Elle ne s'attendait pas à une telle question, surtout après un si long entretien. Elle réfléchit et ouvrit la bouche pour répondre. D'un geste doux, Abel l'arrêta. « Mademoiselle Eratolieb, dit-il en montrant les baguettes posées sur le bureau, prenez ces deux baguettes. » examinez-les, appréciez-les, et lorsque vous le jugerez bon, dites-moi laquelle vous semble la meilleure pour diriger. » Erika prit la première baguette, la regarda, la soupesa. Elle prit la deuxième, fit de même. Puis elle les prit chacune dans une main, jeta un œil à l'une puis à l'autre. Enfin, elle reposa sur le bureau celle qui semblait la plus usée et brandit l'autre en disant « celle-ci ». Comme Abel ne répondit pas, elle poursuivit. « Maître Einstreitz, la baguette que j'ai écartée est la vôtre. Celle que j'ai choisie sera la mienne. » Abel eut un bref et profond tressaillement de bonheur. Il n'en laissa rien paraître, mais lorsqu'il se leva pour serrer la main de la jeune femme et lui souhaiter la bienvenue, Erika vit quelque chose perler au coin de son œil. Juste le temps d'un silence. Juste le temps d'une note. Le bon maître ne veut pas de récompense plus éclatante que celle-là, former un élève qui le dépasse. Alexis Zorba. Dans les contes, il est très souvent question de maître et de disciple. Nous avons déjà eu un récit de transmission à l'épisode 7 de La vie est un conte, intitulé « La cave du silence ». Ici, l'élève est décrite comme très compétente. Et ce qui m'a marqué en lisant ce conte, c'est sa détermination, l'impression de force et d'assurance qui se dégage de ce personnage, tout en sachant que l'enjeu est tel pour elle qu'il génère beaucoup de tension. Chez le vieux chef d'orchestre, on peut retrouver quelques traits de caractère similaires aux sages de la cave du silence. Il est bienveillant, calme et accueillant. Et il décide lui aussi de mettre à l'épreuve son élève. C'est encore une fois comme un rite de passage. La fonction des rites de passage est de symboliser le monde pour le rendre plus familier. Erika, la jeune femme de ce conte, va rentrer dans une nouvelle phase de sa vie en passant du statut d'élève à celui de chef d'orchestre. Souvent, les sages des contes, les maîtres, sont des personnes humbles et discrètes. Nous sommes bien loin des gourous charismatiques qui asservissent leurs fidèles et prétendent détenir la vérité. Le maître est suivi pour ses idées, le gourou plus pour sa personnalité. Le maître, encore une fois contrairement au gourou, sait partir et laisser la place à son successeur. Ce qui me touche à chaque fois que je lis ce conte, c'est justement la pudeur du maître qui laisse juste une larme perler au coin de son œil. Erika, en écartant la baguette du maître, se montre suffisamment mature pour continuer le chemin, et pourquoi pas, pour dépasser le maître. Picasso disait « Copiez, 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 un jour la copie sera imparfaite et ce sera vous ». Bien sûr que l'influence des maîtres est essentielle. Mais l'élève n'a pas vocation à être une copie du maître, mais plutôt à le dépasser, ou on peut dire plutôt à prolonger son mouvement. Vous avez peut-être entendu cette phrase de Jim Rohn « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus ». Nous faisons tous partie de systèmes dans lesquels nous sommes en interaction permanente avec chaque élément du système. Nous sommes tous interdépendants. Chaque action d'un élément d'un système donné a des répercussions sur tous les autres éléments. De manière plus simple, nous sommes influencés, impactés par le comportement, les pensées des personnes que nous côtoyons. Je me souviens qu'en classe de 4e, je n'étais pas une très bonne élève et pour plusieurs raisons, mes parents avaient décidé de me changer d'école, donc de me changer de système. J'avais intégré une nouvelle école qui non seulement était plus exigeante, mais en plus qui avait jugé bon de me mettre dans la classe de 3e la plus forte, qui était connue pour être la classe des intellos. Du culte du cancre cool, je passais au culte de l'élitisme. Cela a été révolutionnaire pour moi. Je me suis sentie stimulée, J'ai été intéressée. J'ai découvert que je travaillais pour moi. Tirée vers le haut par mes camarades de classe, je me suis mise à travailler et je suis passée des dernières places de la classe au premier trimestre, au milieu de classe au deuxième trimestre, pour terminer enfin à la deuxième place pour le dernier trimestre, derrière mon ami Mathieu. Mathieu qui, pour la petite histoire, s'était vu confier au début d'année mon tutorat et donc avait été mon voisin de bureau pendant une grosse partie de l'année. Quand je repense à cette année-là, il était indéniable que ce nouveau système m'avait porté vers le haut. La moyenne des 5 personnes que je côtoyais le plus avait drastiquement changé. Des professeurs passionnants, des élèves impliqués, etc. Porter attention à qui nous fréquentons est donc très important. Est-ce que cette personne m'élève ou me tire vers le bas ? Si elle m'élève, c'est formidable. Si elle me tire vers le bas, comment je prends de la distance avec elle ? De fait, il devient aisé de comprendre que si vous voulez vous upgrader ou vous rendre meilleur sur tel ou tel point, ces évolutions vont forcément passer par votre entourage. Selon plusieurs études, l'entourage influence à 95% nos prises de décision, nos actions et donc nos réussites. Posons-nous cette question. De qui aujourd'hui aimerions-nous nous rapprocher ? Qui aimerions-nous avoir dans notre cercle de fréquentation ? Afin de mieux percevoir l'influence de notre entourage sur nos vies et voir à quel point ce peut être un moteur pour nous, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui un outil issu des pratiques narratives qui consiste à se relier à une source d'inspiration. Les pratiques narratives sont un courant d'accompagnement né dans les années 80 en Australie d'un thérapeute appelé Michael White et d'un travailleur social, David Epson. C'est une approche à laquelle j'ai été formée et que j'aime utiliser dans mes accompagnements coaching, car elles mettent l'individu dans une posture d'auteur, acteur et réalisateur de sa vie, une posture qui m'est chère. Pour cet exercice, nous allons partir d'une personne qui a eu une influence dans notre vie, dans l'évolution de notre pensée, ou dans la construction de notre pensée, de notre manière de regarder le monde. Donc, choisissons quelqu'un que, pour une raison ou une autre, nous avons admiré, respecté, ou qui nous a impressionné, ou qui nous a enseigné, montré quelque chose. C'est quelqu'un qui peut être vivant ou ne plus être de ce monde. Et ça peut même être un personnage fictif. Un héros de légende, un personnage de livre, ou quelqu'un que je ne connais pas directement, un auteur, mais aussi ça peut être des gens qui ont été proches, un professeur, un ami, etc. Prenez le temps d'identifier cette personne. La première personne qui vous vient quand vous pensez « qui m'a inspiré ?»« qui m'a impressionné ?» Voilà. Et vous pourrez refaire l'exercice avec d'autres personnes. Alors, je vais vous donner toutes les étapes de cet exercice. Comme vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est pas forcément disponible avec un papier, un crayon. Soit vous le réécoutez, soit vous me demandez le bonus de l'épisode où je décris tout le processus de cet exercice. Alors, allons-y. Première étape, c'est une étape de description. Nous allons décrire qui était cette personne. Qu'est-ce que nous pourrions en dire ? Et nous pourrions même aller chercher une histoire, une anecdote en particulier dont nous nous souvenons à propos de cette personne. Je vous invite à prendre un papier et un crayon quand vous serez disponible pour le faire et à noter voilà, tout ce que vous pouvez écrire sur cette personne, sur qui elle était et les histoires qui vous reviennent. Ensuite, deuxième étape, c'est une étape qu'on va dire de connexion. Qu'est-ce que nous aimons dans les idées de cette personne qui a changé notre façon de comprendre le monde ? Qu'est-ce que nous aimons dans les idées de cette personne qui a changé notre façon de comprendre le monde ? Y a-t-il un moment où les mots, les actions ou les idées de cette personne nous ont touchés et ont eu un impact sur notre vie personnelle ou professionnelle. Quel est l'héritage qui nous vient de cette personne ? Voilà. Prenez le temps de noter avant de passer à la question suivante. La troisième étape vise la mise en action. À quoi ressemblerait notre vie si nous mettions à l'œuvre une action à partir de cet héritage ? Quelle différence cela ferait-il dans notre vie si cette action était pour bientôt ? Cet exercice nécessite de prendre le temps. Vous pouvez le faire plusieurs fois en choisissant différentes personnes qui ont compté pour vous. C'est un exercice, personnellement, qui me met beaucoup en énergie pour avancer et me permet de me connecter à une véritable gratitude envers ces personnes que la vie a mis sur mon chemin. Alors maintenant, regardons côté de l'entreprise. En entreprise, on pourrait déjà se poser la question de qui sont les maîtres en entreprise. Là, comme ça, spontanément, j'aurais tendance à dire que c'est ce qu'on appelle les leaders. Cet anglicisme très à la mode en entreprise semble être le sésame d'une carrière prometteuse, une sorte de Graal. De quoi s'agit-il concrètement ? C'est la capacité d'un individu à influencer positivement un groupe. Qui sont les leaders dans votre entreprise ? Qu'auraient-ils éventuellement à vous apprendre ? Comment, si tel est votre désir, les faire entrer dans le cercle des 5 personnes que vous fréquentez le plus ? Comme nous venons de le voir précédemment, nous ne pouvons pas ne pas influencer. Faisant partie d'un système, nos actes ont des répercussions sur l'ensemble des éléments. Dès lors, comment influencer positivement le système ? Fédérer, créer de la motivation, créer de l'adhésion. Que vous soyez manager d'une équipe ou simple collaborateur, vous appartenez à différents systèmes. L'entreprise elle-même est un système, la direction à laquelle vous êtes rattaché en est un autre, votre équipe également, ou les différents groupes projets transverses auxquels vous appartenez sont aussi des systèmes. Observons un des plus petits systèmes dont vous faites partie, c'est-à-dire l'équipe, que vous soyez manager ou encore une fois collaborateur. Observons. Que diriez-vous de l'influence de ce système ? Plutôt vertueuse comme ma classe de 3e ou une influence plutôt délétère comme ma classe de 4e ? Comment vous-même vous influencez ce système ? Première chose à observer, vos propres comportements. Êtes-vous, de par vos comportements, modélisant pour les autres de ce que vous voulez voir, observer dans les interactions ? De même qu'un comportement pervers s'imite, un comportement vertueux s'imite également. Que souhaitez-vous insuffler dans votre équipe de par vos comportements ? Tenez-vous vos engagements, par exemple ? Êtes-vous dans l'entraide ? Êtes-vous plus dans une émulation de type compétitive ou coopérative ? Si vous êtes manager, regardez comment les différents collaborateurs de votre équipe influencent le système. Comment faire pour que vos meilleurs éléments influencent positivement le système ? Comment, autre question et ô combien importante, managez-vous la « entre guillemets » sous-performance ? C'est-à-dire, que faites-vous avec vos collaborateurs qui ne sont pas aux attendus de leur poste ? À la fois pour les monter en compétences, mais aussi pour que leur comportement ne tire pas vers le bas le reste de l'équipe. Je pense notamment au cas de certains collaborateurs qui sont désengagés, démotivés. Comment faites-vous ? Est-ce que vous recentrez les missions sur les éléments les plus motivés ou est-ce que vous essayez de mettre en mouvement ces personnes par des formations ou en les interrogeant sur leurs points d'intérêt ou encore une autre stratégie ? Repensant à mon anecdote de la classe de 3e, la question qui me vient est « Comment est organisé dans votre système le partage de connaissances, le mentoring ou toute autre forme de tutorat ?» Voilà, je laisse toutes ces questions faire éventuellement un bout de chemin dans votre esprit. Peut-être auriez-vous des choses à y apprendre. En tout cas, merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 15 jours où nous irons dans le désert et où nous parlerons de la peur de manquer. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant, une bonne façon de le soutenir et de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le conte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestunconte.com. À bientôt !